Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et la Bible et qui la gardent. Nous allons écouter maintenant la parole de Dieu. Je vous invite à tourner dans vos Nouveaux Testaments, la page 226, si ce n'est déjà fait, l'Épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 4. Philippiens 4, les versets 2 à 9. Ce sera notre lecture principale pour ce matin. Et nous écouterons cette lecture après avoir prié. Prions d'abord un moment. Esprit Saint, envoie dans nos cœurs ce matin, nous t'en prions, ta lumière. Éclaire-nous, consolateur, souverain, hôte très doux de nos âmes. Adoucissante fraîcheur, viens remplir nos cœurs ce matin de ta vérité, nous t'en prions. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, réchauffe ce qui est froid, rend droit ce qui est faussé. Accomplis puissamment ta sainte et précieuse besogne au-dedans de chacun d'entre nous, nous t'en supplions ensemble, par Jésus-Christ. Amen. Écoutons ensemble la lecture de Philippiens 4, les versets 2 à 9. J'exhorte Évodie et j'exhorte Saint-Tiche à avoir une même pensée dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te demande de les aider, elles qui ont combattu côte à côte avec moi pour l'Évangile, avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre dont les noms sont dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. 10 000. Vous en avez eu 10 000 hier. Vous allez en avoir encore au moins 10 000 aujourd'hui et demain aussi. 10 000 quoi? Des pensées. On dit que l'être humain a au moins 10 000 pensées par jour. Ça n'en fait des pensées. Heureusement qu'elles sont exemptes d'impôts. Des pensées. Mais on pense à quoi? 10 000 pensées par jour. On pense à quoi? On pense à toutes sortes de choses. Le psaume 64 dit que nos pensées sont comme un abîme, c'est-à-dire une espèce de grande profondeur, large, un abîme. Parfois on dit, j'étais perdu dans mes pensées. Et ce n'est pas étonnant, nos pensées sont comme un abîme. 10 000 pensées par jour. Après la chute de l'homme, la Bible dit « Chaque jour, le cœur de l'homme ne concevait que des pensées mauvaises. » Chaque jour. Pourtant, Dieu avait créé l'homme pour que l'homme aime Dieu de toute sa pensée. Mais après la chute, l'homme ne conçoit que des pensées mauvaises. La Bible dit « Les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel. » C'est un gros problème qu'a l'être humain. Dieu connaît toutes nos pensées. Il connaît parfaitement tous les raisonnements intérieurs que nous avons. La Bible est le seul livre dont l'auteur connaît parfaitement tous les lecteurs et toutes les pensées de ses lecteurs. Ses pensées mauvaises, qu'est-ce que c'est? La Bible, elle parle par exemple des pensées orgueilleuses, qui n'en a jamais eu ici, on en a. Les pensées vaines, les pensées perverses, les pensées infâmes, funestes, les pensées d'iniquité, les pensées corrompues, obscurcies, charnelles, méchantes. Saisissez-vous l'ampleur du problème qui est le nôtre. Nous avons beaucoup de pensées mauvaises, et Dieu en horreur les pensées mauvaises. Et on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Et là, nous apprenons par la Bible que Dieu, dans sa grâce, le Dieu de grâce, a décidé de ne pas nous abandonner dans l'abîme de nos pensées mauvaises, mais il est venu par amour vers nous. Dans sa grâce, dans son grand amour, dans son immense amour, il a envoyé son Fils unique, le Seigneur Jésus-Christ, venir porter le châtiment que nous méritons à cause des milliards de pensées mauvaises que nous avons. Jésus est venu prendre sur lui notre châtiment. Dans son grand amour, Dieu a voulu nous délivrer, nous dégager de cet abîme de pensées mauvaises. Dans son grand amour, Dieu a voulu, par son Saint-Esprit, nous apprendre à penser d'une façon nouvelle et différente pour donner gloire à son nom. Le Saint-Esprit vient pour nous apprendre à aimer Dieu de toute notre pensée. Ces vérités-là sont vraies pour les chrétiens, pour les croyants. Et ce matin, la prédication va porter sur les versets 8 et 9 de Philippiens 4, des versets bien connus, qui nous disent quel doit être l'objet de nos pensées. Et le contexte de ces versets 8 et 9, le contexte un peu élargi, c'est un contexte où l'apôtre Paul nous exhorte à la reconnaissance à cause de l'œuvre de Dieu à notre égard. Au chapitre 2, dans les premiers versets, l'apôtre Paul nous rappelle à quel point le Christ Jésus s'est donné par amour pour nous, qu'il a livré sa vie en sacrifice pour nous. Et l'apôtre Paul nous exhorte à travers toute cette épître à avoir une réponse appropriée à ce si grand amour. Et un élément de la réponse appropriée, il nous dit au chapitre 2, au verset 5, « Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus. » Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus. Dans d'autres de ses épîtres, l'apôtre Paul dit, par exemple, en 2 Corinthiens 10, 5, « Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance au Christ. » Aux Colossiens, il dit « Cherchez les choses d'en haut, le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. » Dans son épître aux Romains, il dit « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. » L'épître aux Hébreux nous appelle à vivre notre vie les yeux fixés sur Jésus. Il y a comme un fil conducteur dans tous ces versets qui est le suivant, c'est que Dieu nous appelle par reconnaissance pour ce qu'il a fait pour nous, à avoir en nous des pensées qui se portent sur le Seigneur Jésus-Christ et sur son Évangile. Le Seigneur nous appelle à ne pas entretenir en nous, à ne pas cultiver en nous des pensées qui sont incompatibles avec notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, et son Évangile. La Bible nous exhorte à être remplis de la vie de Jésus-Christ, remplis de sa bonne nouvelle. On pourrait voir Philippiens 4:8 comme un portrait du Christ Jésus. Et c'est ce que nous allons regarder ensemble ce matin, en reprenant brièvement les 8 facettes qui sont exprimées ici dans ce verset, Philippiens 4:8. Premièrement, que tout ce qui est vrai soit l'objet de vos pensées. Le Seigneur Jésus-Christ a dit « Je suis la vérité ». Penser à ce qui est vrai, c'est nécessairement penser au Seigneur Jésus-Christ. Penser aussi à la parole de Dieu, puisque Jésus a dit que la parole de Dieu est la vérité. Si nous voulons penser à ce qui est vrai, nous allons nécessairement penser à Jésus-Christ, à la parole de Dieu, à la vérité de la parole de Dieu. Notre Sauveur nous a mis en garde et il a dit que le diable est le menteur et le père du mensonge. Donc, penser à ce qui est vrai, ça va être prendre garde et fuir les mensonges, les menteries de l'ennemi que le Seigneur a identifié pour nous. Et si on s'examine soi-même, on sait qu'on est porté, on est enclin facilement à croire les mensonges du diable. Le diable qui vient nous dire, par exemple, « Non, tu ne peux pas pardonner à cette personne qui t'a offensé, c'est impossible. » Ou le diable qui veut nous faire croire de toutes sortes de manières que nous ne pouvons pas oser parler de l'Évangile à quelqu'un. Voyons donc, on va se faire tuer si on parle de l'Évangile. Ou encore le diable qui vient essayer de nous convaincre que si nous avions beaucoup plus d'argent, nous serions beaucoup plus heureux. Hein, de toutes sortes de manières, ce menteur vient et essaie de nous gagner à ses mensonges. Mais Paul nous exhorte ici à avoir dans nos pensées ce qui est vrai. Il nous exhorte par le fait même à être nous-mêmes vrais dans notre vie, dans nos engagements, dans tout ce que nous faisons. La Bible dit, dites que chacun dise la vérité à son prochain, que chacun dise la vérité. On sait, à la lumière de l'ensemble de la parole de Dieu, le sort qui attend les menteurs. En Apocalypse 21:8, il est dit, « Tous les menteurs auront comme part les temps brûlants de feu et de soufre. » Donc, nous voulons vivre dans la vérité, nous voulons penser ce qui est vrai. Si dernièrement vous êtes tombé dans un piège de mensonge, revenez à Dieu ce matin, dites-le au Seigneur, revenez à lui, revenez dans cette vérité. Que tout ce qui est vrai soit l'objet de vos pensées. Deuxièmement, que tout ce qui est honorable soit l'objet de vos pensées. Honorable ou noble, digne de respect, vénérable, comme le Seigneur Jésus. Jésus n'a jamais rien fait de déshonorant, rien. Qui est plus honorable que lui? Personne. Et plus nous allons penser à lui, plus nous allons penser à comment il est, comment il était, comment il est, plus nous allons ressembler à lui. Nous pourrons en ce moment, dit l'apôtre Paul en 1 Timothée 2, vivre en toute piété et dignité, diriger nos maisons avec une parfaite dignité. Les Épîtres nous enseignent que tous les croyants, anciens, diacres, hommes, femmes, jeunes, vieux, sont appelés à être honorables, à la ressemblance du Seigneur Jésus-Christ. Et les Épîtres disent, cela est agréable à Dieu. C'est agréable à Dieu quand les enfants de Dieu vivent d'une façon honorable. Le contraire d'honorable, c'est scandaleux, honteux. C'est ce que le diable aime. Il aime les scandales, lui. Il aime ce qui est déshonorant, ce qui est avilissant. Il travaille très fort pour nous entraîner dans ses mauvaises voies, mais par la puissance du Saint-Esprit qui est en nous, nous pouvons lui résister. Que tout ce qui est honorable soit l'objet de vos pensées. Troisièmement, que tout ce qui est juste soit l'objet de vos pensées. Jésus-Christ est juste. Il est appelé dans le livre des Actes des Apôtres le juste. Il est le juste par excellence. Et nous, par pure grâce, nous sommes revêtus de la justice de Jésus-Christ. Et nous apprenons, par le Saint-Esprit qui vit en nous, à chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. L'apôtre Paul écrit à Tite, « La grâce de Dieu nous enseigne à vivre dans le siècle présent d'une manière juste. Vivre d'une manière juste, c'est notre vocation et par la grâce de Dieu, c'est ce que nous apprenons. Est juste ce qui est selon les standards de Dieu. C'est Dieu qui détermine ce qui est juste. C'est Dieu qui nous dit dans sa parole que chacun recherche la justice. La Bible est très particulière et avec des exemples très concrets et elle exhorte les patrons, par exemple, à accorder à leurs employés ce qui est juste. Nous sommes appelés à vivre dans tous les petits détails de notre vie d'une manière juste qui est agréable à Dieu. De son côté, le diable, lui, il aime l'injustice. Il cherche par tous les moyens à nous entraîner dans des voies injustes. Mais par la force que nous donne le Saint-Esprit, nous lui résistons en nous revêtant de la cuirasse de la justice et en le repoussant. Que tout ce qui est juste soit l'objet de vos pensées. Quatrièmement, que tout ce qui est pur soit l'objet de vos pensées. L'apôtre Jean, en 1 Jean 3, nous parle du Seigneur Jésus qui est pur et il dit « Celui qui espère voir le Christ Jésus se purifie lui-même comme le Christ Jésus est pur. » Le chrétien a à cœur de vivre une vie pure. L'apôtre Paul exhorte Timothée en lui disant « Garde-toi pur. » C'est un conseil qui vaut pour chacun de nous. « Garde-toi pur. » Il dit même à Timothée « Sois un modèle de pureté. » Un modèle. Le contraire de la pureté, c'est l'impureté, la saleté, la souillure. Ça, c'est le domaine du diable qui cherche toujours à nous entraîner dans le bourbier de l'impureté pour nous y faire patauger et pour qu'on ruine notre témoignage et pour qu'on déshonore le Seigneur notre Dieu. Au chapitre 1 en Philippiens, l'apôtre Paul il dit qu'il y a des personnes qui l'entourent et dont les intentions ne sont pas pures. Il écrit en 2 Corinthiens 11, 3, « De même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne s'écartent de la pureté à l'égard de Christ. » C'est toujours l'œuvre du malin, comme c'était le cas avec Ève dès le début, de venir tout brouiller et tout souiller. Et cette pureté, au niveau de nos pensées, va avoir un impact sur nos paroles et sur notre conduite. Que tout ce qui est pur soit l'objet de vos pensées. Cinquièmement, que tout ce qui est aimable soit l'objet de vos pensées. Dieu est amour. Dieu est aimable. Jésus-Christ est aimable. Plus que tout, plus que tous, et en réponse à son immense amour pour nous. Par la puissance du Saint-Esprit, nous apprenons et nous désirons être aimables. Nous désirons aimer. Nous désirons faire triompher l'amour sur tous les obstacles. Nous désirons vivre en nous appuyant chaque jour sur la grande charte de 1 Corinthiens 13. Nous voulons être inspirés par cette charte-là. Nous voulons même respirer dans cette charte de l'amour de 1 Corinthiens 13. Le diable, lui, veut toujours nous mettre en mode critique, haine, discorde, division. Et des fois, nous le laissons nous persuader de devenir détestables, haïssables, désagréables, pas aimable, même antipathique, par la force du Saint-Esprit, repoussons-le et vivons dans cette caractéristique de l'amour dont Paul parle ici. Que tout ce qui est aimable soit l'objet de vos pensées. Sixièmement, que tout ce qui mérite l'approbation soit l'objet de vos pensées. Le Christ Jésus, parfait et saint, mérite l'approbation. Mais il a porté le châtiment de ceux que Dieu désapprouve. Nous faisons beaucoup de choses répréhensibles et mauvaises et pécheresses. Et le Christ Jésus a pris notre place pour expier nos œuvres répréhensibles et mauvaises. Et dans son grand amour, il nous a donné le Saint-Esprit pour que nous puissions apprendre à vivre en faisant et en pensant à tout ce qui mérite l'approbation. L'apôtre Paul nous dit en Romains 15, 2 que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bon en vue de l'édification. Que chacun ait une bonne conduite devant tous. Le diable, lui, veut que nos pensées soient habitées par d'autres choses. Il veut que nous ayons des pensées assassines contre les autres. Il veut que nous entretenions en nous des pensées de non-pardon, des pensées de dureté, des pensées d'égoïsme, des pensées de toutes sortes qui sont malsaines et mauvaises. C'est ce qu'il veut, lui. Mais nous pouvons lui résister par la foi. Et nous pouvons chercher ce qui est aimable aux yeux de Dieu et des hommes, ce qui est utile aux hommes. L'amour, la politesse, la courtoisie, le respect, la bonne conduite, les prévenances réciproques, et toutes ces choses de cette même nature-là. Que tout ce qui mérite l'approbation soit l'objet de vos pensées. Septièmement, que tout ce qui est vertueux soit l'objet de vos pensées. La vertu, c'est cette disposition qui nous porte à faire le bien et à nous éloigner du mal. Ce qui est vertueux nous pousse à être de meilleures personnes. Romains 12, 17, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. L'apôtre Pierre a cette parole magnifique en Actes 10. Jésus de Nazareth allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait. Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien. Paul écrit en Galates 6, « Pratiquons le bien envers tous. » Notre Sauveur allait de lieu en lieu en faisant du bien et nous sommes appelés à le suivre, à suivre son exemple, à pratiquer le bien envers tous, nous aussi, allant de lieu en lieu à chaque jour pour bénir notre prochain, pour faire du bien autour de nous. Le diable veut nous pousser au contraire de la vertu. Le contraire de la vertu, c'est le vice, c'est cette disposition à être mauvais, à faire du mal. La Bible dit, « Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Haïssez le mal. » 2 Pierre 1, 5, « Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Faites tous vos efforts pour être vertueux. Que tout ce qui est vertueux soit l'objet de vos pensées. » Huitièmement, « Que tout ce qui est digne de louange soit l'objet de vos pensées. » L'apôtre Paul ne nous encourage certainement pas à rechercher les applaudissements et les louanges des hommes, non, mais il nous exhorte à vivre d'une manière qui va faire en sorte que les ennemis du christianisme qui sont portés à nous mépriser ou à nous persécuter ne seront pas capables de faire autrement que de glorifier Dieu en voyant nos bonnes actions, nos bonnes œuvres. Ils vont être touchés, bouleversés de voir que ceux qui se disent chrétiens viennent vivre réellement à l'honneur de Dieu. Ils s'évertuent à penser, à vivre comme ce qui plaît réellement à Dieu et ils vont être confondus. C'est ce que dit l'apôtre Pierre, ils vont être confondus. Que tout ce qui est digne de louange soit l'objet de vos pensées. Le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, est vrai. Honorable, juste, pur, aimable, il mérite l'approbation. Il est vertueux et digne de louange. Et s'il est l'objet de nos pensées, ça va avoir un impact sur notre conduite, sur notre comportement quotidien. Et c'est ce que Paul évoque au verset 9. « Ce que vous avez appris, reçu et entendu, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. » La vie chrétienne, c'est certainement, oui, au niveau de nos pensées, mais il ne faut pas que ça reste au niveau de nos pensées. Ça doit couler, découler dans notre conduite, dans notre comportement quotidien, comportement d'obéissance. Si le verset 8 parle de comment nous devons penser, le verset 9 parle de comment nous devons agir, nous conduire selon ces saintes et bonnes pensées. Vous voyez ce que nous entretenons dans ce monde de nos pensées a un impact immense sur notre vie, sur comment nous allons nous conduire aujourd'hui. Et peut-être vous êtes en train de vous dire, c'est très difficile de penser de cette façon-là, de penser de cette manière nouvelle. Et c'est vrai. C'est vrai. C'est difficile. Mais c'est possible. C'est difficile parce que tout dans notre environnement, quasiment tout, nous détourne, nous cherche à nous détourner du Seigneur, de notre Dieu, de ce qui est en haut. Mais c'est difficile, ça s'apprend. C'est difficile, mais c'est possible par la grâce et la puissance de Dieu. Vous vous souvenez peut-être de cette phrase célèbre de Martin Luther qui dit « On ne peut pas empêcher un oiseau de voler au-dessus de notre tête, mais on peut l'empêcher de faire son nid dans nos cheveux. » Ça s'apprend de combattre les mauvaises pensées et d'apprendre à penser selon le Seigneur. Peut-être quand vous étiez jeune, parfois, on faisait ça à l'école, moi je le faisais pas, mais je me le faisais faire, on était en train d'écrire soigneusement, puis là il arrivait quelqu'un qui nous donnait un coup de coude. Là c'était le dégât, là. Hein? Vous avez peut-être déjà vécu ça. Eh bien des fois je pense que le diable il est comme ça, il est celui qui vient là, nous donner un coup de coude. On est en train d'essayer de vivre et de penser au Seigneur, de marcher, puis là il arrive, puis on se met à penser à d'autres choses. Il faut lui résister. Et l'apôtre Pierre, après avoir expliqué dans sa première épître la grâce merveilleuse de Dieu, au chapitre 5, il dit « Résistez au diable ferme en la foi. » Résistez-lui. Résistez-lui. Et recentrez-vous dans vos pensées sur Dieu. Ce n'est pas facile, mais ça s'apprend. Et une chose qui peut nous aider à le faire, c'est de vivre dans une prière ininterrompue, une prière continuelle. Vous savez, quand Paul dit à 1 Thessaloniciens 5, 18, « Priez sans cesse », c'est un des principes les plus importants dans la vie chrétienne. Priez sans cesse. Vivez tout le temps dans cette attitude de prière, où vous parlez au Seigneur, où vous vous confiez en lui. Ça nous aide beaucoup, ça, à vivre en ayant les pensées fixées sur Dieu. Parce que c'est vrai, les médias, en général, font quasiment l'extrême opposé de ce qu'on voit ici dans ce verset 8. Nous regardons les médias et nous y trouvons beaucoup de choses qui ne sont pas vraies, beaucoup de choses qui parlent de l'impureté, beaucoup de choses qui sont malsaines, qui sont loin d'être vertueuses. Et nous avons besoin de revenir à ce que Paul nous dit ici. Le psaume 54, 5 nous dit « Ils n'ont pas de place pour Dieu dans leurs pensées ». En Philippiens 3, 19, Paul dit « Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. » Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Et Paul veut nous élever vers Dieu. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui croient que pour obtenir la paix, il faut faire le vide. Paul dit non, il faut faire le plein. Il faut faire le plein de bonnes pensées qui portent sur le Seigneur Jésus-Christ et sur son évangile. Et le résultat, il nous dit au verset 9, « Le Dieu de paix sera avec vous. » La paix vient d'avoir des bonnes pensées centrées sur le Christ Jésus et sur son évangile. Puisque nous pensons à tous les jours à plein de choses, bien, pensons de bonnes choses, pensons d'une façon nouvelle, sanctifiée, comme un enfant de Dieu doit penser. Et le Dieu de paix sera avec vous. Pour conclure, en Colossiens 1, 21, Paul dit « Vous étiez autrefois ennemis du Seigneur par vos pensées. Il vous a maintenant réconciliés par sa mort pour vous faire paraître devant lui sans défaut et sans reproche. » On était des ennemis de Dieu par nos pensées maintenant. C'est tout à fait différent. Quand on pense à ça, on se dit « Mais quelle œuvre colossale !» Dieu opère par le salut et dans la sanctification. Quelle grande œuvre colossale Dieu opère, surnaturelle, miraculeuse, époustouflante, pour nous sortir de l'abîme profond de nos pensées mauvaises et nous faire penser d'une façon nouvelle à la gloire de Dieu. Répondons à ce grand amour de la façon que le Seigneur le demande de nous. Et nous aurons le bonheur d'expérimenter chaque jour davantage ce que ça veut dire que le Dieu de paix sera avec vous. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Amen.